Voilà, on arrive au second thème, d'ailleurs, où on poursuivra en partie ce qui a déjà été dit lors du premier thème, sur le développement du canton et ses infrastructures. C'est le plat de résistance de ce débat. On y accordera le double d'espace-temps qu'aux deux autres questions. Donc, le Jura face à son avenir, quel chemin choisir avec des moyens financiers limités? Le canton du Jura doit clairement choisir ses axes de développement. Dans quelle direction regarder? Où mettre les priorités? Dans quel domaine l'accent doit-il être mis en ce qui concerne notamment les infrastructures? Donc, mesdames et messieurs, les candidats au gouvernement, faut-il un CREA? Faut-il Jurassica? L'État doit-il plutôt financer un nouvel hôpital ou plutôt des salles de sport, une nouvelle patinoire à Porrentruy ou encore mettre de l'argent dans les routes ou les chemins de fer? Mesdames et messieurs les candidats, à vos idées.
Et on commence avec Charles Juillard qui lève déjà la main, donc c'est très bien, il a anticipé. Est-ce que le Jura, Charles Juillard, ministre sortant des Finances, a aujourd'hui encore les moyens d'investir?
Alors je crois qu'on a démontré à plusieurs reprises, en 8 ans, que nous avons beaucoup investi. Et je regardais encore un article qui comparait les investissements faits par les différents cantons. Proportionnellement à des cantons comme nos voisins, Neuchâtel par exemple, nous investissons 2 fois plus que le canton de Neuchâtel. Nous investissons davantage que le canton de Berne par tête d'habitant. Mais c'est nécessaire parce que le canton est en phase, pas encore de vitesse de croisière en termes de développement. Et il y a encore beaucoup à faire. C'est un petit peu dommage que dans les exemples que vous avez cités, vous n'avez cité que des projets qui coûtent. Parce que le développement et les investissements
peuvent
aussi aller dans des directions qui rapportent, par exemple, dans des conditions cadres favorables pour le développement d'entreprises, développement endogène ou développement exogène, parce que ça crée de la richesse, ça crée des moyens, ça crée des salaires, ça crée des emplois, et ça crée aussi des moyens pour que les collectivités publiques puissent mener des politiques publiques. Parce que souvent, on se dit, mais voilà, on va dépenser ceci, on va dépenser ça. Malheureusement, pas assez souvent, on dit, mais qu'est-ce que ça peut nous rapporter d'investir dans tel ou tel domaine? Et je crois qu'il faut encore et toujours, s'imaginer comment est-ce qu'on va gagner cet argent avant d'imaginer comment on va le dépenser. Parce que trop souvent, dans les collectivités publiques, on sait comment on va dépenser 1,20 franc avant d'avoir gagné 80 centimes. Et ça, je crois qu'il faut aussi changer ses mentalités. C'est ce qui fait que, dans des périodes de haute conjoncture, comme on l'a entendu, l'État jurassien arrive à peine à équilibrer ses comptes. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que nous avons effectivement une économie qui se renforce, mais qu'il n'est pas encore suffisamment par rapport aux politiques que l'on veut mener. Et quelque part, on doit investir davantage dans ce qui peut susciter la création d'emplois à plus forte valeur ajoutée, par soit le développement endogène ou le développement exogène, aider nos entreprises, aider les jeunes qui se sont formés dans des emplois à haute valeur ajoutée, à créer leur entreprise chez nous et mettre la priorité là-dessus, parce que vous l'avez dit, on n'a pas des moyens pour tout faire.
On va aller voir à gauche, du côté de Rémi Meury. Tout le monde n'a pas la même vision de l'état de santé financière de l'État jurassien. Vous disiez en interview que le canton du Jura n'avait jamais eu autant d'argent dans ses caisses qu'actuellement.
Non, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le canton. Je n'ai pas dit dans les caisses du cantonal. Justement, on les vide. C'est peut-être pour ça qu'il y a le problème. Parce que je rappelle quand même en passant que suite à la votation sur Jura payé ouvert, qui a été refusée, mais où on a accepté le volet fiscal, on a perdu, ou on va perdre grosso modo dans cette affaire, pas loin de 35 à 40 millions. Si on additionne le tout cumulé, ça vous donne à peu près le chiffre d'Optima. Je trouve que c'est aussi intéressant. Par contre, là, ce que vient de dire Charles à l'instant concernant le développement économique, Je crois qu'on peut être d'accord sur ce genre de proposition. Il faut effectivement aider les PME dans notre région à se développer, mais on doit aussi les aider avec une certaine moralité dans tout ce qui concerne le développement social, notamment les salaires qui y seront versés. Maintenant, ça, c'est pour permettre d'avoir des rentrées supplémentaires, mais je crois qu'on ne peut pas non plus continuer à tenter de faire pitié comme on le fait maintenant en disant on ne pourra pas dépenser 50 centimes pour le CREA. Ce n'est pas possible non plus. On a des propositions, on a des choix à faire, on a d'autres choses à faire. On ne peut plus concurrencer d'un point de vue fiscal. C'est ça qui fait peut-être la différence. Moi, je n'ai jamais cru à la concurrence fiscale avec nos voisins ou avec les grands cantons industriels ou qui ont des boîtes aux lettres d'entreprise. On ne pourra jamais le faire. Mais par contre, on a des atouts à développer. On a la possibilité d'amener des choses différentes dans notre canton. Le développement des crèches est en bonne voie. La formation, c'est plutôt une bonne formation qui est développée ici dans le canton du Jura. C'est des éléments dont il faut tenir compte. Et je pense qu'on a avantage à développer dans ces domaines-là où on a des particularismes.
David Herret, vous vouliez la parole.
Voilà, exactement. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait le ministre Charles Juillard tout à l'heure, par rapport aux investissements nécessaires. On voit par exemple dans le domaine hospitalier, où là, il y a un projet d'hôpital cantonal qui est mis sur le tapis actuellement. On est sollicité pour savoir qu'est-ce qu'on en pense. Puis là, ça peut être un investissement qui peut être profitable pour l'État jurassien, dans le sens où il permettra peut-être une meilleure rentabilité de l'hôpital du Jura. Il permettra peut-être aussi d'avoir un point d'armée qui soit un petit peu plus bas que les cantons voisins de Bâle, Berny-Neuchâtel, ce qui permettra de stopper ou de réduire le flux sortant des personnes qui vont se faire hospitaliser à l'extérieur du canton. Donc encore une fois, renforcer son attractivité financière. Et puis avec des projets comme ça, on peut peut-être, je l'espère, investir pour avoir un retour qui soit bénéfique pour les comptes de l'État.
Juste un instant sur ce sujet-là. Il est peut-être utile d'amener une petite précision à ce qui vient d'être dit par M. David Herret en ce qui concerne les investissements au sein des hôpitaux de manière générale, pas seulement l'hôpital du Jura. À l'heure actuelle, ce sont les hôpitaux par eux-mêmes qui doivent réinvestir, et donc un projet de construction d'un nouvel hôpital n'aurait pas à péjorer en fait le montant des investissements disponibles par l'État. Donc avec le nouveau financement hospitalier, c'est par eux-mêmes que les hôpitaux doivent trouver leur financement. Et ça mérite d'être quand même précisé à ce stade. Par rapport aux investissements, si je puis juste me permettre, il est quand même un domaine aussi sur lequel on doit avoir une attention particulière. On est au-delà des investissements, mais on est quand même dans la capacité d'investissement de notre canton. Il s'agit essentiellement de veiller à la problématique du transfert des charges de la Confédération vers les cantons. Et malheureusement, on doit le constater, le montant des transferts de charges de la Confédération vers les cantons sont importants, sur lesquels nous avons peu de marge de manœuvre, et par conséquent, ça limite notre capacité d'action. Dans le domaine santé sociale, dans les 5 à 8 dernières années, on a vu un transfert de la Confédération vers les cantons de l'ordre de 3 milliards, ce qui représente pour notre canton 30 millions sur lesquels nous n'avons pas prise. Si nous pouvons dans l'avenir limiter les transferts de charges de la Confédération vers le canton, ça nous permettrait d'avoir une meilleure capacité d'investissement.
Jacques Gerber.
Oui, peut-être on parle souvent dans cette campagne, on oppose Jurassica, au Créa, au Hall de Sport. Je crois qu'il est important pour le futur gouvernement de garantir, de maintenir les prestations et les infrastructures de base. Aujourd'hui, nous avons des déficiences, tout simplement dans le respect de certaines bases légales. Nous avons parlé de salles de gym, nous ne respectons plus la loi en termes de capacité au niveau des écoles pour offrir des heures de gym à nos élèves. C'est un exemple. Les voies de communication, nous connaissons l'état de certaines routes, ça fait partie de ces infrastructures de base, ça fait partie de ces conditions cadres nécessaires au développement, au bon développement de notre canton, et je crois que nous devons être extrêmement attentifs de ne pas utiliser notre capacité d'investissement dans des projets qui nous absorberaient absolument toute notre capacité au détriment de ces infrastructures de base.
On rénove plutôt que de construire.
Pas seulement rénover, on construit également. Mais à un moment donné, il faut quand même être capable de maintenir l'état des infrastructures que nous avons déjà aujourd'hui, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et ce sera un des points de priorisation, de discussion du futur gouvernement.
Du côté des Rorac du Nord, Pascal Prince.
Oui, alors effectivement, nous, on est pour qu'on investisse aussi plus dans le quotidien des Jurassiens, parce que là, on entend surtout des gros projets, des gros problèmes qui sont souvent liés à des décisions qui se prennent au niveau fédéral, et le Jurassien, il est un petit peu dépassé, je pense, par ces problématiques. Et nous, on aimerait qu'on investisse beaucoup plus pour la jeunesse, pour lui donner envie de rester dans ce canton, typiquement avec des maisons de la musique qu'on pourrait offrir, où les jeunes pourraient venir s'entraîner et faire de la musique gratuitement, de leur donner un espace d'expression culturelle, de leur donner un espace de rencontre, typiquement un parc où on pourrait tous se retrouver sans devoir faire de grands investissements, mais simplement, je pense qu'on a besoin de faire des petits investissements, des petits coups de pouce à tous ceux qui ont des projets, plutôt que de faire des immenses projets qui, souvent, n'arrivent pas à bout parce qu'on a un financement manquant.
Vous estimez qu'il y a donc une demande ?
Absolument, j'en suis convaincu. Il faudrait faire des états généraux de la jeunesse pour demander quelles sont les possibilités et quelles sont les demandes de la jeunesse actuelle. Mais je pense qu'on doit arriver dans la société de loisirs qui est la société que veulent les jeunes.
Damien Lachat pour l'UDC.
Oui, je crois qu'il y a aussi un grand tabou, surtout à gauche, c'est les partenariats privés-publics. Il faut pas se leurrer. Moi, je me suis fait une petite liste des projets qui viennent maintenant au Parlement. C'est la valse des millions. Donc, à un moment donné, il faudra quand même un peu décider. Puis le problème, comme c'est fait actuellement, le gouvernement, il met ses projets un après l'autre au Parlement. Donc, on peut pas tellement choisir. Alors là, le gouvernement, il choisit pas. Il dit, ben voilà, on veut faire un créa. Il fait le projet, l'étang de la Gruyère aussi. Alors là, c'est aussi de nouveau des millions. Un nouvel hôpital. Il faudrait qu'il tranche. Et puis aussi qu'on se dise, mais si on veut faire d'autres projets, il faut aussi chercher dans le privé. Et puis l'hôpital, alors ça, c'est un tabou à gauche. On veut pas d'investissement privé. Mais bon, quand on a un investissement à 110 millions... On aura quand même besoin à quelque part de cet argent. Et puis aussi au niveau culturel, moi j'aimerais aussi qu'on mette plus à contribution les gens de la culture pour chercher un peu de l'argent aussi de leur côté, et puis pas seulement du côté de l'État. Parce qu'actuellement, ben, on a vu Jurassica, on essaye d'en chercher à côté, on n'en trouve pas. Maintenant le CREA, lui, devra trouver sur les 24 millions, environ 8 millions. Donc voilà, ces 8 millions, si on ne trouve pas Jurassica, pour qu'on les trouverait là? Si on ne les trouve pas, est-ce que c'est le canton qui... Donc c'est toutes des questions qu'il faut se poser, et puis il faudrait peut-être se les poser aussi un peu avant, d'abord avoir l'argent privé et puis après que l'État vienne et puis mettre vraiment le projet en place.
Alors retour à gauche avec Nathalie Bartoulot, candidate du PS. Damien Lachat parle de tabou à gauche en ce qui concerne les partenariats public-privé.
Alors je tiens à le rassurer tout de suite, on n'est pas du tout opposé à un partenariat privé-public. Par contre, on a une vision de ce que doit être un État qui se développe, et puis on a un certain nombre de règles. C'est-à-dire que dans certains domaines, on est pour le maintien d'un service public fort. Par contre, dans
d'autres
domaines...
sur l'hôpital.
Mais l'hôpital, je pense que c'est une vaste question. On a un hôpital maintenant qui est certes un hôpital de soins aigus, qui est peut-être pas complètement fonctionnel. Et puis peut-être avant de dire on développe un hôpital public quelque part dans notre canton, en partenariat avec un grand groupe dont on taira le nom, je pense qu'on doit d'abord faire une première analyse qui nous permettrait déjà de voir si notre hôpital ne nous permet pas de répondre aux besoins qui sont ceux de la population jurassienne. Tout à l'heure, je voulais peut-être juste rebondir parce qu'en fait, quand j'ai entendu Charles Duhard tout à l'heure qui disait « Ouais, dans ce canton, on a la fâcheuse habitude de dépenser 1,20 franc alors qu'on n'en gagne qu'un », pour moi, je pense quand même qu'on peut tous être d'accord autour de la table que notre canton, il y a encore un certain nombre d'infrastructures à développer. Et à ce titre-là, pour moi, ça ne me dérange pas qu'un État s'endette sur quelques années pour faire un effort de rattrapage. J'en ai pas comme dans un ménage où on gagne 1 franc puis on peut dépenser qu'un franc. Je pense aussi à un moment donné qu'il y a des investissements qui doivent être faits et qui nous rapporteront, je dis de manière collective, à tous, mais pas dans un horizon temporel d'une année ou de deux, peut-être de 5, peut-être de 10. Ce qui compte, c'est qu'on développe notre canton, on a une population qui n'est pas suffisante, et si on veut donner aux personnes envie de venir s'installer chez nous, c'est évident, c'est clair qu'il y a des infrastructures qui doivent encore être développées. Et c'est peut-être la mission de l'État.
On revient au grand argentier de la République pour nous parler d'argent du ménage, Charles Juillard.
Oui, pas seulement. Moi, je crois qu'on a raison du côté du RORAC de s'intéresser aux jeunes, mais il n'y a pas besoin de faire un grand sondage. Il suffit de dire ce qui existe. Et il n'y a pas si longtemps que ça que la Commission fédérale pour la jeunesse a publié un sondage qu'il a réalisé auprès de je ne sais plus combien de milliers de jeunes suisses, y compris des jurassiens de 17 ans. Et ô grand dame de tous ceux qui croyaient qu'on espérait des visions terribles de la jeunesse par rapport à leurs aînés, eh bien non. Quelles sont les principales préoccupations des jeunes de 17 ans? C'est d'avoir du boulot. C'est pas une salle de spectacle, de musique ou de sport. C'est d'avoir du boulot. et de vivre en sécurité là où ils peuvent. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour faire des études, elles existent, ces études, donc il suffit de les lire et de les mettre en action. Maintenant, pour ce qui concerne l'endettement, Madame Bartoulot, je crois que faut quand même bien vous rendre compte, vous avez été députée, vous êtes chef de service d'administration, vous savez très bien qu'en 40 ans d'existence, le canton du Jura n'a jamais pu amortir un franc de ses dettes par des exercices ordinaires. Il a pu, une fois, amortir un gros paquet de ses dettes grâce, comme dirait Rémi Meury, à la vente des bijoux de famille, qui étaient les actions FMB, et puis aussi grâce lors de la BNS. Donc, quelque part, vous voyez que c'est bien théorique de vouloir dire qu'on compare un ménage avec l'État. Non, moi, je ne compare pas un ménage avec l'État, mais je dois reconnaître aujourd'hui que, évidemment, que dès qu'on a 4 sous, eh bien, on essaie déjà de regarder comment est-ce qu'on peut le dépenser sans même l'avoir encaissé. Et là, ça ne joue plus parce qu'on a un déséquilibre de ce côté-là. Il faudra bien trouver des solutions. Donc, endetté, oui, mais je suis d'accord avec vous. Alors, tout endettement devrait être accompagné d'un plan d'amortissement de ces investissements. Et aujourd'hui, je n'en ai encore pas beaucoup vu.
Alors, peut-être sur la politique de la jeunesse, des jeunes qui privilégient leur boulot à des infrastructures pour des spectacles. Par exemple, Vincent Della Ducata, pour les Rorac du Nord, est-ce que vous partagez cette vision de Charles Juillard?
À moitié. Non, je vais être sympa quand même. Non, mais à moitié, parce que ça parle d'argent, ça parle du fait qu'on ne trouve pas d'argent, mais quand on voit les salaires des ministres, les salaires d'ex-ministres, je veux dire, on peut déjà récupérer quelque chose là-dessus. C'est déjà... Ben, c'est pas faux, ben. C'est déjà, ça serait déjà un bon début. Après, OK, dans votre sondage, les jeunes, ils avaient certainement l'envie d'avoir un boulot, mais ils ont aussi l'envie d'avoir des loisirs, des activités en dehors du boulot, parce que...
Mais ils ne les réclament pas parce qu'ils les ont, eux, ils veulent du boulot. Et puis de la sécurité, pouvoir vivre tranquillement et puis s'adonner justement à leurs loisirs. Alors, il faut leur donner, il faut écouter ce que dit le peuple. Alors bien sûr, le peuple, des fois, il dit il faut baisser les salaires des ministres parce que ces ministres, ils ne font rien, ils gagnent trop bien leur vie, etc. Ça, je crois qu'on tombe dans la démagogie, c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'il y a d'autres visions. On parle de vision pour ce canton, moi je préfère l'action, je préfère les actions concrètes pour sortir ce canton, le projeter dans l'avenir et, si possible, sur la base de la jeunesse d'aujourd'hui avec laquelle nous pouvons construire quelque chose et à laquelle il faut absolument faire confiance.
OK, on est d'accord. Mais par contre, moi je suis en train de me demander une chose. Vous parlez de sécurité pour la jeunesse. Vous faites quelque chose pour la sécurité de la jeunesse quand une boîte de nuit, elle ferme à 5h du matin, qu'il n'y a pas de noctambus, il n'y a plus de train, ils doivent rentrer à pied ou avec de l'alcool, puis des fois ils prennent la voiture du fait.
Alors à partir de 5h du matin, il y a des trains, il faut juste regarder les horaires. Et puis avant, il y a
pas
des
nocturnes. Pas pour tout le monde. Hein. Pas pour tout le monde.
Il faut écouter le peuple, bien sûr. Ce soir, le peuple vous écoute. Martial Courtais, vos priorités en matière de
Donc moi, je suis favorable donc, à ce qui a été évoqué. Hein. Le CREA, évidemment, notamment sur cette base publique-privée, là, je crois que la base, elle est bonne. Jurassica, évidemment, c'est notre patrimoine. Il y a quelque chose au niveau touristique à faire, absolument. Alors là, il faut en voir encore la dimension qu'on va vouloir y donner. La patinoire aussi, évidemment, elle est à Port-Entrue en l'occurrence, mais quand on va au match, on se rend bien compte qu'il y a au moins la moitié de gens qui viennent des supporters, qui viennent de l'extérieur, de la Joie, donc du reste du canton du Jura. Donc oui, aussi à cet investissement-là.
Qu'est-ce qu'on fait en premier, Martial?
Mais justement, en premier, mais il faut réaliser ces choses-là, puisqu'on en a parlé là, c'est en bonne voie, notamment au niveau parlementaire. Maintenant, ce que je voulais évoquer par rapport à cela, c'est comment y arriver, et je pense que si on prend un tout petit peu de hauteur, il faut se demander ce qu'on essaie de faire au niveau, peut-être, marketing, pour aussi mieux vendre notre région, parce que si on veut qu'il y ait des infrastructures, c'est pour les Jurassiens, mais aussi peut-être pour qu'on puisse toucher quelques personnes de l'extérieur. Le ministre Tenz évoquait avant le fait qu'on pourrait être que 87 000 avec Moutier, etc. Mais je crois que si on reprend Jura Pays Ouvert, l'idée était, et je la trouvais excellente, c'est de parler de 80 000 habitants par rapport à 2020. J'ai fait un petit calcul, j'ai essayé de prendre un taux maintenant qui est à peu près à 1% d'augmentation par année. C'est ce qui est le cas ces toutes dernières années. On arrivera en 2020 à environ 77 000 habitants. Alors là, je pense que ces 80 000 sont un bel objectif qui est tout à fait d'actualité, et notamment par rapport à la région baloise. Il y a déjà un peu cet effet-là. Et il y a plein de petites choses qu'on peut faire. J'aimerais juste encore prendre cet élément moment-là, par rapport à l'aspect, je suis d'accord avec le ministre Juillard qui dit qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi, il faut penser à cet aspect financier. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour attirer les gens, et notamment, je dirais, par rapport aux Lofonnais tout proches, maintenant, il y a des échanges d'étudiants, 20 jurassiens qui vont au lycée à Lofon et inversement, 20, on peut faire beaucoup plus. Quand j'entends, là, on devrait être proactif, et je terminerai là-dessus pour laisser la parole aux autres, mais là, on devrait être proactif parce qu'au niveau des jurassiens, il y a envie de faire plus. On doit développer aussi ce lien par rapport à la langue. Ça a été toujours un frein historique pour nous jurassiens par rapport à l'allemand. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et on sent que c'est du côté balois qui est un peu un frein, peut-être financier, en se disant oui, 20, c'est déjà bien. Mais là, il faudrait faire exploser ce chiffre. Ça serait excellent pour notre jeunesse.
On va donner la parole tout à l'heure. On la réclame beaucoup. On a juste, des candidats qu'on n'a pas entendus. Alors rapidement, Jacques Gerber, et puis on va chez les candidats qu'on n'a pas encore entendus.
Non, mais juste pour mentionner que ce soir, on peut faire toutes les promesses du monde. Donc il n'y a aucun problème, on peut promettre les investissements pour tous les projets que nous avons cités. Il y a une réalité, c'est la réalité que Charles Juillard a citée, on s'endette en période de haute conjoncture. Et ce n'est pas le rôle de l'État. Et là, je me porte en faux par rapport aux déclarations de Nathalie Barthoulot. On se doit, en période de haute conjoncture, rembourser nos dettes, faire des plans d'amortissement justement sur nos investissements pour avoir la capacité financière en période de difficulté économique d'amortir les crises, d'investir. Et malheureusement, depuis la création du canton, nous n'arrivons pas, avec le budget ordinaire, à amortir nos dettes.
Christophe Berdin.
C'est là qu'on est vraiment différent. Donc pour nous, effectivement, donc pour la gauche, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir haute conjoncture, qu'on peut aussi s'endetter. Je pense qu'il y a des beaux projets, puis que ces beaux projets, il faut qu'on les mène à terme. Je suis totalement d'accord avec... j'ai un blanc. Martial Courtais, avec les projets du CREA, je pense que c'est important qu'on fasse un pôle culturel dans notre canton. On est un des 4 cantons qui n'avons pas de théâtre cantonal et je pense que ça fait bientôt 50 ans qu'on attend ça. Je pense qu'il est important. Bümplitz, vous ne le connaissez pas parce qu'il n'y a pas de culture. Tandis que Bâle, la région baloise, a de la culture et on avance. Les gens connaissent parce que culturellement, c'est fort. C'est très très fort. Donc là aussi, je pense que le canton du Jura doit se positionner dans cette réalité-là et mettre en place ces infrastructures décisives pour moi.
Gabriel Vimin.
Oui, alors juste sur ce qui a été dit, le Parlement pourra décider en fait qu'est-ce qu'on voudra comme projet futur puisqu'on aura une planification financière qu'on devra voter l'année prochaine. Quand on parle du CREA, il faut juste savoir que le message, il est déjà sur les tables du Parlement. Donc en fait, c'est un projet qui va vraisemblablement aboutir. Et puis, j'aimerais aussi rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, notre État, il ne peut pas s'endetter sans compter par rapport aux investissements qu'on aimerait faire. Donc on dit on aimerait un CREA, c'est super, on aimerait Jurassica, c'est super, mais je pense qu'il faut montrer, donner des projets qui sont à la mesure de notre canton. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qu'on aimerait développer, et moi je pense qu'il faudra peut-être qu'on prenne plus le temps, il faudra plus de temps pour arriver à réaliser l'ensemble de ces projets. Je voulais juste réagir par rapport à la formation. Donc, on dit il faut offrir aux jeunes la possibilité de rester dans le canton. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, on doit aussi proposer des nouvelles formations qui sont adaptées à ce que les entreprises peuvent engager dans le canton. Je donne un exemple, je l'ai déjà donné, on parle du domaine de la métrologie, donc on voit maintenant qu'il y a des entreprises qui sont intéressées dans des domaines de haute valeur ajoutée à vouloir venir s'implanter dans le Jura pour des domaines qui permettent de s'implanter avec les entreprises qu'on connaît maintenant. Donc ça, moi je pense que c'est des domaines qu'on doit développer. La dernière chose aussi, on a le campus tertiaire qui va se développer à Adlémont, et dans ce contexte-là, avec les étudiants jurassiens, mais peut-être aussi attirer d'autres étudiants. Si on a des bonnes compétences ici dans le canton, que ce soit dans la microtechnique, dans l'horlogerie et dans le domaine HES, eh bien pourquoi pas, avec les formations qu'on propose, pouvoir former d'autres étudiants qui viendraient ici dans le canton du Jura. Et ça permettrait aussi à notre canton de se développer.
Damien Lachat, au niveau de la formation.
Alors j'entends sur la métrologie, il ne faut aussi pas vouloir faire ce qui existe déjà. Donc il y a un bel institut fédéral de métrologie à Vabern, donc il ne faut pas essayer de faire la même chose qui existe.
Il ne faut pas que ça soit seulement centralisé, il faut que ça vienne aussi peut-être dans nos régions.
Alors ça, c'est aussi une question au niveau de l'État jurassien. On essaie de centraliser, de faire les choses un peu plus simples. Et puis, certains d'entre vous proposent aussi de donner, de décentraliser des choses à Moutier. Donc, il faut d'une fois se mettre d'accord si on centralise ou bien si on décentralise. Juste pour les projets généraux, alors là, on parle du CREA parce qu'on a un projet sur la table au niveau du Parlement. Alors, moi, j'ai rien contre qu'on mette de l'argent pour les infrastructures. Mais ce qui me dérange le plus dans ce projet, c'est au niveau des charges de fonctionnement. Donc, si on regarde le projet qui est proposé, on a environ 2,5 millions par an de charges de fonctionnement. 2,5 millions. Et puis, les rentrées espérées, c'est 400 000. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne joue pas au niveau de l'équilibre des charges de fonctionnement. Donc, quand on fait un projet, il faudrait au moins essayer qu'il y ait un certain équilibre pour que l'État ne doive pas... Alors, parce que quand on donne pour une infrastructure, c'est une fois au début, mais les charges de fonctionnement, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est parce qu'on doit donner chaque année, on doit rembourser ce qui n'a pas été gagné. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire un grand effort plutôt de ce côté-là.
Rémi Meury, CSPOP, les charges de fonctionnement pour le CREA, c'est trop lourd, le Jura ne peut pas se permettre ça.
Non, on doit aussi admettre qu'un service public coûte. On ne peut pas décider comme ça qu'on va rendre service à la population et puis faire des bénéfices avec. Je n'ai jamais entendu quelqu'un hurler par rapport à ce qu'on a dû dépenser pour la 16. Tout le monde est heureux autour de la 16. Moi, on a dit, est-ce que ça a rapporté quoi en francs ? Rien du tout. Si vous limitez uniquement à ce qu'on a fait... Non, uniquement à l'aspect A16, les travaux qui ont été faits, vous n'avez fait que payer des entreprises. Alors qu'après, qu'il y ait des retombées, on est d'accord. Mais de là à dire, chaque fois qu'on va présenter quelque chose de nouveau, on va dire, ça va nous coûter plus que ça ne rapporte, donc on ne le fait pas. Et on est en train de le dire systématiquement. D'ailleurs, même des fois, quand il y a des choses qui nous rapportent, on aimerait bien s'en séparer comme l'OVJ. Donc là, il y a aussi un vrai problème. Et puis sur le terme de la formation, moi je suis d'accord avec Gabriel Villemain de dire qu'il faut s'intéresser à ça, mais il faut se rendre compte, et tu devrais le savoir presque mieux que moi, que l'économie va beaucoup plus vite que le public. Et quand on aura mis en place des formations nouvelles, on sera déjà en retard sur l'économie, qui attendra autre chose. Ce qu'il faut surtout faire, et dans les besoins des jeunes, notamment les emplois, c'est aussi des emplois intéressants, motivants, et notamment les salaires. Et là, quand on n'aura pas une politique de défense des salaires dans le canton du Jura, on n'aura pas la capacité de laisser les jeunes qu'on forme ici, de garder les jeunes qu'on forme ici dans le Jura.
Alors, vite, le ministre des Finances.
Bon, tout d'abord, ce n'est pas juste, parce qu'il n'y a que 40% des jeunes qui se forment dans les hautes et très hautes écoles qui ne trouvent pas d'emploi chez nous. Ceux qui se forment à l'école d'horlogerie à Porrentruy, la plupart, et aux microtechniques, la plupart ont déjà un boulot avant de sortir de l'école. Donc ça, c'est la réalité quand même du terrain, la réalité jurassienne. Il faut le voir, il faut aller à la rencontre des jeunes, il faut aller à la rencontre des entreprises, et puis il faut aller voir là-dedans. Et puis ensuite, après, non, on est d'accord, mais il y a aussi la HEPB Jeune, et je crois que tous les étudiants qui sont de la HEPB Jeune trouvent un emploi. Ceux qui sont de la division santé sociale, ils trouvent quasiment tous un emploi. Aussi, on est même en pénurie de ce côté-là. Donc je crois que c'est le problème, il se situe ailleurs, et c'est là que peut-être on doit entreprendre une fois le dossier de l'autre côté, parce qu'on a toujours essayé de dire il faut mettre la formation en adéquation avec les besoins de l'économie. On voit que bon, ça marche plus ou moins, mais on sait aussi que l'économie offre des emplois sans que forcément on aide cette économie à offrir ses emplois. Par contre, qu'il faut plutôt mettre, c'est nos moyens, comme je disais tout à l'heure, mettre l'accent sur encourager les emplois pour lesquels sont formés ces jeunes jurassiens à l'extérieur et qui ne trouvent pas de quoi s'occuper chez nous, ne trouvent peut-être pas le salaire adéquat. En ce qui concerne l'Office des véhicules, Rémi Meury, mais je m'énerve chaque fois que je vous entends dire qu'on va privatiser l'Office des véhicules, qu'on va vendre les bijoux de famille. Mais s'il vous plaît, Rémi Meury, vous manquez des gens quand vous dites ça, parce qu'il suffit de lire le message que le gouvernement a adressé au Parlement, et une majorité du Parlement ne s'est pas trompée là-dessus, on va autonomiser. C'est-à-dire qu'on va donner un tout petit peu d'air dans le fonctionnement à ce service de l'État qui restera complètement en main de l'État. Privatiser, ça voudrait dire qu'on vend ce service à quelqu'un de l'extérieur, à un privé. On vend rien du tout. On garde ça, mais on lui donne de l'autonomie pour qu'il rapporte plus pour financer d'autres projets, précisément, M. Meury.
On fera juste le débat au moment de la discussion sur le référendum. Je suis 100% d'accord de faire ça avec toi. Je me réjouis d'ailleurs, mais je veux juste te signaler que votre message, je l'ai bien lu.
Michel Tens, d'accord avec Charles Juillard, là.
Moi, je crois que je... J'aimerais revenir juste un tout petit peu avant.
Je veux juste sur l'OVJ, d'accord avec Charles Juillard.
Alors, comme je suis au sein du même gouvernement que mon collègue Charles Juillard, de manière conjointe, je vais défendre le projet. Cependant, j'estime en effet que l'État ne doit pas brader son autonomie et sous-traiter lorsqu'il a la capacité d'offrir des prestations. Il doit les maintenir au sein de son appareil. Mais il est parfois où on doit se donner un tant soit peu de mou et pourquoi pas sous-traiter en quelque sorte. Mais j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien, par rapport au partenariat public-privé et aux affirmations de Damien Lachat de tout à l'heure, en lien avec la gauche qui s'opposerait au partenariat public-privé. Mais il faudrait peut-être quand même qu'il révise un tout petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, voire ces dernières années, dans notre canton, avec des projets, que ça soit du côté du Home La Promenade, que ça soit le campus tertiaire, que ça soit le CREA, que ça soit Jurassica, justement pour pouvoir, et ce sont pour la majorité des projets qui ont été portés, notamment par des ministres de gauche, il a fallu avoir recours en effet au partenariat public-privé pour pouvoir les réaliser, parce que nous n'avons pas forcément les capacités financières de le faire. Donc oui, pour un canton tel que le nôtre, qui a une capacité d'investissement relativement limitée, que nous ayons, sous certaines conditions et en définissant les règles du jeu avec le partenaire, des partenariats avec le privé, pourquoi pas.
Françoise Chéniard, on vous distingue à peine derrière les larges épaules de M. Juillard. Sur cette question, votre avis ?
Je crois que tout a été dit. Pour distribuer de la richesse dans un premier temps, il faut en créer. Et puis une façon d'en créer, quand on prouvera qu'un organisme de l'État fonctionne mieux ou tout au moins aussi bien que lorsqu'il est autonomisé, on pourra rediscuter. Maintenant, il n'y a rien de définitif. On peut essayer comme ça. Essayons au moins. Et quand on aura vu si ça fonctionne ou si vraiment ça ne fonctionne pas, il est toujours possible de revenir en arrière. On n'a rien vendu, on n'a rien cédé. On reste maître. Il ne fera que encaisser l'argent et l'État reste maître.
David Erdener pour Rorac du Nord. François Chéniard dit qu'il faut créer de la richesse. On en crée comment ?
En investissant. Premièrement. Non, moi j'aimerais aussi revenir sur, ça me fait surtout un peu rire d'entendre ce débat, je trouve ça quand même génial, mais je crois que tous les candidats disent il y a des bonnes idées, c'est super, c'est génial. Mais quand on voit, il y a des projets qui se mettent en place, et puis c'est toujours à freiner des cas de fer. Certains partis tout d'un coup, ah ouais, ça a l'air bien, c'est un beau projet, alors qu'on pourrait faire... un partenariat public-privé, mais non, vu que ça vient de la gauche, la droite ne veut pas. Si la droite propose quelque chose, la gauche ne veut pas. C'est systématiquement comme ça. Je pense que dans ce canton, on pourrait aussi peut-être un peu plus, arrêter ce clivage gauche-droite, et puis pouvoir avancer en avant. On a tous envie que ce canton aille en avant. Donc pourquoi pas essayer d'y aller un peu.
C'est
un
faux. C'est faux.
Alors, Jean-Paul Dobler,
nous sommes en période électorale. C'est clair que les partis essayent de faire valoir leurs arguments. Mais je peux vous garantir, en tant que chef de service, que nous travaillons avec les ministres, avec le gouvernement, avec les représentants au niveau fédéral de toute tendance, qu'elle soit. Main dans la main, dans l'intérêt général, et je me porte alors en faux total par rapport à ce qui vient d'être affirmé, par rapport à la classe politique et aux dirigeants, également aux chefs de service. Nous travaillons dans l'intérêt général.
Oui, mais on va peut-être aller voir chez un parlementaire. Juste. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Dobler, que la droite et la gauche s'accordent toujours ?
Alors, tout d'abord, pour répondre à M. Erdener, j'aimerais quand même qu'il me cite quelques exemples où ça s'est passé comme ça. Et puis, finalement, s'il devait y avoir de tels exemples, à ma connaissance, il n'y a pas de projets qui sont torpillés par la gauche dès l'instant où ils sont présentés par la droite et réciproquement. Et finalement, s'il devait y en avoir un que je ne connais pas, ben finalement, c'est dans le centre que vous deviez vous retrouver. Hein, voilà. Maintenant, indépendamment de ces problèmes-là, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de richesse, on a parlé d'investissement, mais on n'a encore pas parlé de tourisme. Et je crois que le tourisme chez nous, c'est aussi un investissement. Ce qui s'est passé ce dernier week-end à Courtemelon, où il y a 10 000 ou 15 000 personnes qui sont venues dans le Jura, je crois que c'est aussi une richesse. Et on a des entreprises, on a des agriculteurs, on a des prestataires de services qui créent de la richesse. Et je crois que dans ce secteur-là, il faut qu'on investisse et pas chaque fois aussi empêcher les promoteurs de faire des créations de chambres d'hôtel, parce que ces gens, il faut les faire dormir chez nous, il faut les faire rester, il faut les faire dépenser leur argent.
Marcel Courtet.
Oui, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit avant par rapport à ces jeunes, puisque bon, j'avais demandé la parole, mais du coup, comme on est nombreux, effectivement, on est un petit peu décalé par rapport à ça, excusez-moi. On devrait pouvoir mettre en place quelque chose, justement, on parlait des finances, donc il faut être soucieux de ça, mais quelque chose qui coûtera rien ou presque rien. Je pense, par exemple, au réseautage par rapport à nos étudiants. On parle de fuite des cerveaux, j'aime pas ce terme, mais enfin, c'est vrai que si on pouvait permettre aux jeunes jurassiens de revenir dans le canton, ça serait quelque chose d'intéressant, et de se dire notamment, pourquoi pas un réseautage par rapport à leurs travaux. On parle des travaux de bachelor ou autres, ou des gens qui sont à l'EPFL ou à l'EPFZ, ils ont des choses concrètes à faire, qui font en entreprise, et je connais des cas réels, qui ont fait que ces travaux se sont faits dans des entreprises lausannoises ou zurichoises, alors que nos entreprises pourraient le faire. Donc là, on pourrait imaginer quelque chose qui ne coûte quasiment rien, par notre service de l'économie, à faire un lien avec ces jeunes. Et moi, j'ai souvenir aussi, quand j'étais à l'université avec du canton, j'ai jamais eu ce contact. Par contre, j'ai eu des contacts par rapport à d'autres cantons, Neuchâtel ou Vaud, où on essayait effectivement d'harponner un peu ces jeunes. Donc, c'est aussi une façon peut-être d'essayer de les faire à moindre frais, de les faire garder ce lien avec nous.
Comment garder le lien, Yannick Erard, qu'on n'a pas encore entendu?
Alors, je vous avoue que là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Et je préfère éviter de m'exprimer sur un dossier que je ne connais pas très bien, pour ne pas dire de bêtises, en fait.
Voilà, c'est au moins le mérite d'être clair. Monsieur Héret.
Voilà, moi, j'aimerais faire un petit résumé de ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Tout le monde a parlé d'investissement ou pas, dans le ménage ou pas. Mais finalement, ce qui est important, c'est que l'économie de la région ait la plus grande plus-value dans les activités qu'elle réalise, ce qui permettra d'avoir aussi des salaires en conséquence, d'avoir une fiscalité en conséquence, puis un secteur économique qui souffre actuellement parce que la plus-value est réalisée à l'extérieur du canton, c'est l'industrie, c'est-à-dire c'est l'économie productrice de lait industriel. Et là, ils sont pénalisés parce qu'ils ont le lait qui est acheté à des prix très bas, qui est transformé à l'extérieur du canton. Et là, je pense qu'il y aurait moyen de discuter entre le gouvernement et la Chambre d'agriculture pour trouver une solution, pour investir en collaboration avec eux, pour qu'on ait de la plus-value sur la transformation du lait industriel qui soit réalisée si possible dans notre région, ce qui améliorera également le confort économique des acteurs agricoles de ce domaine.
Là, je suis sûr que le candidat des Verts aura une bonne solution à vous proposer.
Oui, tout à fait, c'est exactement ce que nous avions proposé, donc produire localement et puis consommer localement. Produire localement, c'est-à-dire qu'on fait également la transformation des produits dans le canton. Donc, je suis très heureux que tu sois tout à fait d'accord avec le programme des Verts. Maintenant, concernant la suite, il y a bien sûr que vous avez parlé de très très beaux projets, d'investissements très intéressants. Seulement, j'aimerais quand même revenir sur une amélioration certaine à apporter au fonctionnement de l'État. Quand on regarde beaucoup de projets qui nous ont été proposés, on remarque quand même que l'analyse financière manque dans bien des cas, donc on prend certaines décisions avec des bandeaux sur les yeux. Quand on décide de faire des 5% d'une façon généralisée d'économie, là on est en dehors de cette démarche de processus qui nous permet de bien comprendre la prestation qu'on offre à la population et de travailler à l'amélioration de cette prestation. Maintenant, si on parle dans ce même domaine, donc du CREA, c'est clair que je suis pour un CREA, je suis pour une salle, je suis pour le développement de ces activités. Mais seulement quand on analyse le dossier, on voit que là aussi, il manque quelque chose. Parce que l'avènement du CREA, ça veut dire que l'enveloppe budgétaire totale consacrée à la culture ne sera pas augmentée. ce qui veut dire que les autres sociétés pâtiront, verront donc leurs prestations diminuer. Et puis le fait qu'on n'en parle pas, ça me gêne. Ça me gêne de savoir que certainement le CCRDA de Delémont va disparaître et qu'on ne demande pas en premier aux Delémontins ce qu'ils en pensent. Parce que le CCRD, il y aura environ 40% de moins des prestations qui seront accordées.
On passe juste la question sur ce sujet à la gauche. Est-ce que c'est vrai que le CREA sera le fossoyeur des centres culturels régionaux?
Pas du tout. Je pense que dans le projet qui a été présenté, qui est maintenant sur la table du Parlement, il a été clairement discuté avec les milieux culturels. Ceux-ci sont favorables, évidemment, à la création d'une salle telle que, ou d'une infrastructure telle que le CREA. Ils savent également qu'il s'agira de se réorganiser autour de ce lieu. Parce que si on a la chance de pouvoir se payer un tel lieu pour animer la vie culturelle de l'ensemble du canton, et je tiens vraiment à ce point-là de dire que c'est une infrastructure pour l'ensemble du canton, alors, en effet, l'offre autour va se réorganiser un tant soit peu. Il serait particulier que ce soit le CCRP, que ce soit le CCRD, que ce soit le Soleil à Seigne-et-Légier, n'ait pas un travail en concordance avec le futur CREA. Donc il y a une volonté d'harmoniser les programmations de manière à ce que chacun puisse se nourrir les uns des autres. Et puisque nous sommes aussi dans ce débat gauche-droite, hein, on parlait du clivage gauche-droite tout à l'heure, j'ose espérer quand même que dans notre canton, comme dans tous les autres cantons, ils doivent y avoir des débats gauche-droite, c'est ceux-ci qui font avancer les choses. C'est vrai, nous avons la chance de pouvoir faire avancer les choses avec un Parlement qui débat. Il y a parfois aussi des moments de crispation. On l'a vu récemment au Parlement avec cette décision très particulière de refuser une loi que le gouvernement lui proposait par rapport au salaire minimum. Mais nous avons des débats et il est nécessaire. Je n'ai pas l'impression par contre que ce soit du côté du Parlement, que ce soit du côté du gouvernement, il y ait des blocages de projets majeurs à cause de simples clivages gauche-droite. Il y a cet événement particulier que nous avons connu récemment, sur lequel il faudra bien entendu revenir.
Alors, restons-y, Monsieur Voirol. Est-ce que, voilà, il semble que sur le salaire minimum, c'est un clivage gauche-droite. Est-ce que vous êtes de droite?
Je suis vert.
Vous êtes vert?
Je suis vert, tout à fait. Non, mais ce que j'observe au niveau de cette deuxième lecture, puisque j'ai été pris à partie concernant cette deuxième lecture, c'est que le gouvernement de droite a proposé un projet de loi aux commissions de droite et on arrive devant le Parlement de droite qui le refuse en disant « vous n'avez pas tenu compte de ce que nous avions demandé ». Alors c'est quand même un petit peu bizarre. Pour moi, c'est une solution qui est anticonstitutionnelle et antidémocratique parce qu'on ne tient pas compte de la volonté du peuple d'avoir une loi sur le salaire minimum.
Monsieur Julien.
Bon, tout d'abord, j'aimerais dire que moi, j'aime pas ces caricatures gauche, droite, parce que ça fait pas avancer les choses. Alors, peut-être que ça suscite le débat parfois, la crispation aussi. Moi, je suis beaucoup plus favorable à des décisions consensuelles qui paraissent peut-être un peu timorées parfois, mais qui font avancer les choses et qui les font avancer tout le temps, si possible dans la bonne direction et si possible dans l'intérêt général. Mais au début de ce débat, je me posais la question pourquoi vous aviez situé Anselme Voirol plutôt ici, effectivement, sur le centre-droite.
Il n'y avait pas suffisamment
d'abord
place à la table de
Rémy Meurie. Je pensais qu'il ne pouvait plus fréquenter les communistes du CSPOP depuis une certaine décision, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, d'après la théorie qu'il a tenue sur le financement des projets, je comprends mieux. Mais Monsieur Voirol, je crois qu'alors là aussi, il faut relire la Constitution, relire la loi et relire les messages, parce que chaque fois, il y a un chapitre qui concerne le financement de ces différents projets. Et en commission, il y a tout loisir de poser des questions complémentaires si c'est nécessaire. Donc dire qu'on vous fait voter des choses les yeux bandés, je pense qu'il faut, non, il faut lire, il faut un tout petit peu présenter les choses, parce que s'il y a alors un effort sur lequel le gouvernement a essayé de faire ces dernières années, c'est justement d'exposer clairement les choses et puis de veiller à ce que chacune et chacun puisse se définir par rapport au projet, voire formuler d'autres propositions. Mais je répète, il faut plutôt voir ça dans l'intérêt général de tous les jurassiennes et tous les jurassiens, y compris nous espérons bientôt les gens de Moutier et pas seulement sur ceux de droite ou ceux de gauche.
Alors dernière ligne droite sur ce thème, on va passer à la suite, Damien Lachat.
Oui, moi j'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit M. Meurie sur les infrastructures, particulièrement sur l'autoroute.
Je veux quand même dire que ça, c'est complètement faux. Hein. Une autoroute, ça désenclave. Et puis, alors nous, on ne sera évidemment jamais l'Arc Lémanique, on ne sera jamais Bâle. Mais si on prend l'exemple, il y a un tout bel exemple au canton de Fribourg, il y a Bulle, depuis qu'ils ont mis l'autoroute, Bulle se développe mais énormément. Et puis j'espère que quand on aura terminé l'A16, si les délais sont enfin respectés, eh ben, qu'on arrive à développer aussi le Jura, puis que les entreprises vont venir. Alors dire qu'une autoroute, ça rapporte rien, c'est tout faux. Et puis vous qui aimez aussi bien dire, quand c'est la Confédération qui paye, c'est pas le Jura. Alors voilà, je vous rassure, c'est la Confédération qui paye, les autoroutes sont maintenant à la Confédération, et puis donne des mandats de prestation au canton. Donc une autoroute, c'est vraiment très important, tout comme les transports au niveau des trains. Donc j'ai déjà cité Contre-Bâle, Contre-Bienne, Contre-Berne, ça c'est des infrastructures qu'il faut absolument défendre, parce qu'il y a de toute façon des entreprises qu'on ne pourra jamais avoir dans notre canton, et puis si on les a pas trop loin de chez nous, autant pouvoir garder les gens puis qu'ils ne déménagent pas. Moi, j'en suis un de ces fameux pendulaires. Ceux qui se lèvent tôt le matin, eh ben, ils savent que ces trains sont bondés. Donc, il y a plein de Jurassiens qui travaillent à l'extérieur, qui gagnent leur salaire à l'extérieur. Donc, ils ne prennent pas une place de travail au Jura, mais qui ramènent les finances. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important et puis qu'il faut aussi soigner.
On arrive vraiment dans la dernière ligne droite. On va passer la parole aux deux femmes sur ce plateau, Madame Chénia.
Alors moi j'aimerais revenir un peu sur ce salaire minimum. Nous avions deux possibilités, accepter l'ouverture et discuter de ce salaire minimum. Que voit-on ? Il s'adresse à... On n'a pas fait une loi pour les enseignants ou les chefs de service. On voit dans cette loi que 12 exceptions en font partie. Ceux-là justement qui en auraient besoin. Donc si nous avions refusé la loi, entré en matière, refusé la loi, on n'en parle plus. La non-entrée en matière était une façon de renvoyer le projet au gouvernement en leur demandant « présentez-nous quelque chose d'autre » sans toutes ces exceptions. Le peuple a accepté un salaire décent et c'est clair pour tous les Jurassiens et c'est clair que nous voulons ça aussi. Mais qu'est-ce qu'un salaire décent ? Il n'y avait pas de somme fixée. Nous souhaiterions, nous avons fait des propositions dans ce sens, c'est-à-dire un salaire minimum par branche, ou alors des mesures très fortement incitatives à rejoindre les conventions collectives. Maintenant, le peuple a aussi dit non à un salaire minimum à 4 000 francs. On nous propose 3 500 francs. De plus, il faut savoir que le canton de Neuchâtel, qui a fait une loi semblable, se retrouve au tribunal fédéral. Donc la sagesse voudrait qu'on attende le résultat du tribunal fédéral. Et après, on y voit plus clair, on sait un peu mieux ce qu'il faut proposer. Mais le refus d'entrer en matière n'est pas un refus de la loi, c'est un retour au gouvernement pour un nouveau projet.
Nathalie Bartolo, justement, le PS et des partis de gauche, les syndicats, lancent une nouvelle initiative sur ce salaire minimum. Le combat doit continuer ?
Le combat doit effectivement continuer parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une population jurassienne qui dit oui à un salaire minimum à 64%. On a une commission qui planche sur le dossier 54%. On a une commission qui planche, ben ça fait rien, c'est quand même une majorité de la population. Peu importe si c'est 54 ou 64, c'est encore un détail. Mais ce que j'observe, c'est qu'on a une commission qui planche sur un dossier, qui présente un projet de loi, et puis un Parlement qui n'entre même pas en matière sur le sujet. Donc pour moi, ça signifie clairement que le Parlement n'est pas d'accord d'ouvrir le débat sur ce sujet. Et je pense franchement que là, le Parlement a fait une erreur, parce qu'il y a une manifestation populaire qui a été claire, et puis ensuite qu'il y a un travail en commission qui se fasse, qu'il y ait une proposition de loi qui viennent et que cette proposition de loi soit simplement, purement restituée à son ministre de tutelle, moi ça me questionne très franchement.
On ne réussira pas à vous mettre d'accord sur ce sujet entre la gauche et la droite. On a consommé ce plat de résistance.